Une révolte, disait Louis XVI. Non, sire, c'est une révolution, lui répondit le sieur de La Rochefoucauld le lendemain d'un certain 14 juillet. Insurrection, désobéissance civile, résistance, rébellion, rêve. Les mots sont nombreux pour écrire l'avenir.
De vive voix.
Pascal Paradou.
En 2016, dans un quartier d'Alger, des enfants tiennent tête à des généraux tout puissants. Ainsi commence le nouveau roman, le quatrième de Kauter Hadimi, Les Petits de Décembre, presque un roman prémonitoire au regard de la situation de l'Algérie aujourd'hui. Bonjour Kauter Hadimi.
Bonjour.
C'est une histoire vraie ou c'est un conte que vous nous racontez?
C'est un mélange de contes, de fables et d'histoires vraies. Il y a bien un terrain qui était occupé par des enfants, qui était un terrain de football jusqu'en 2016, et qui a été acheté par des généraux pour construire leur villa. Et en effet, il y a eu un début de révolte sur ce terrain-là en 2016. Et il s'avère que moi, je suis arrivée là-bas quelques jours après cette bagarre entre les militaires et les enfants. Et j'ai attrapé l'histoire au vol et j'en ai fait un roman, une fiction.
La cité où se passe le roman, la cité du 11 décembre à Deir Ibrahim, existe donc bien.
Existe bien.
Et ce nom n'est pas tout à fait un hasard. Je ne sais pas si c'est ça qui vous a intéressé aussi, mais ça fait écho aux premières grandes manifestations qui ont conduit à l'indépendance de l'Algérie après plusieurs années de guerre.
Alors il y a eu d'autres manifestations, hein. On ne va pas oublier mai 45 et d'autres avant et après. Mais effectivement, les manifestations du 11 décembre étaient gigantesques. Elles ont aussi été importante de par la date, parce que la question de l'Algérie était posée à l'ONU à l'époque, et il s'agissait aussi de montrer quel était le choix et l'envie du peuple algérien.
Alors cette histoire de gamin qui occupe le terrain de foot pour éviter qu'il soit privatisé, comment vous nommeriez ce mouvement? C'est une révolte ou une révolution?
C'est une révolte, vraiment c'est, je pense que c'est le bon mot, c'est une révolte et c'est une révolte qui trouve ses racines ce qu'il y a de plus profond chez les enfants, c'est-à-dire une envie de se battre contre un sentiment d'injustice.
Oui, il n'y a aucune intention politique.
Hein. Aucune, pour les enfants, aucune. Et ceux qui ont des intentions politiques, ce sont tous les adultes qui gravitent autour de ces enfants, c'est-à-dire notamment les parents de certains enfants, les grands-parents, les généraux, etc. Eux ont tous des intentions politiques, eux voient partout d'ailleurs, comme ils sont tous paranoïaques à plus ou moins grande échelle, ils voient tous des intentions politiques, ils essayent tous de récupérer ce combat et cette révolte. Pour les enfants, c'est un combat beaucoup plus pur, beaucoup plus honnête et beaucoup plus sincère.
En fait, les gamins reprochent aux généraux d'être des tueurs de jeux. Très jolie expression.
Oui, ils disent, et puis même les jeunes disent, ils ont déjà tout le pays, ils pourraient au moins nous laisser ça. Effectivement, et d'ailleurs le jeu est important dans ce roman. Moi je l'ai construit comme si c'était un match, les enfants jouent un match, c'est le dernier match, c'est le plus grand match de leur vie. À un moment je dis, il faut jouer sur le terrain, jouer pour ne pas oublier que c'est un terrain de foot, ce n'est qu'un terrain de foot, ce n'est pas autre chose. Effectivement, ils jouent un match, l'ultime match face aux généraux, et gagnera, le gain c'est le terrain.
Alors il y a la naïveté des enfants, l'innocence des enfants qui fait que ce match, cet enjeu, cette révolte est très touchante. Et en fait, eux seuls peuvent mener cette révolte, et pas du tout les générations précédentes. C'est ce qu'on comprend dans votre roman, parce que toutes les générations, les parents, les grands-parents, sont englués dans le système.
Oui, mais ils sont englués dans le système, et pour autant, certains parents n'ont pas l'impression d'être englués dans le système. Ils ont été pris dans le système à un moment donné de l'histoire de l'Algérie, où ils pensaient que aller dans le système, c'était construire le pays, et dans une idée de nationalisme extrêmement fort, de patriotisme, ce qui était les années post-indépendance. Hein. Ils étaient portés par ça, par l'indépendance. Et puis, ben, les années sont passées, ils font eux-mêmes partie du système, tout en se défendant. Hein. C'est assez touchant d'ailleurs, cette génération qui est incarnée par les deux colonels, qui sont un peu
les
perdus.
Les colonels qui sont les parents des gamins.
Enfants. Oui, qui sont perdus parce qu'ils font partie du système, mais ils ne veulent pas du système. Ils ont envie de se battre contre le système, mais ils ne veulent pas se battre de manière extrême comme le font les enfants. Et puis, ils voient débarquer ces gamins pour lesquels ils n'ont pas non plus un immense respect. C'est vraiment pour eux, c'est une histoire de môme. Et ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils font? On n'est pas d'accord. Et puis, petit à petit, les enfants vont prendre tellement de place qu'ils vont avoir peur et ils vont avoir l'impression que la roue a tourné et qu'ils n'ont pas su saisir leur chance et qu'en fait, l'histoire est en train d'être construite ou d'être écrite, pardon, avec la génération d'après. Et donc, se pose cette question, à quel moment leur génération aura été maître à bord? C'est-à-dire, la génération d'avant a existé très longtemps et au moment où eux auraient dû monter à bord, on leur a dit, bah non, c'est le terrorisme, c'est pas le moment, etc. Ils ont attendu, peut-être qu'ils ont attendu trop longtemps, peut-être qu'ils auraient dû se révolter avant, mais en tout cas, quand l'heure de la révolte a sonné, dans mon roman en tout cas, c'est les enfants qui ont pris le pouvoir, ce n'est pas leurs parents. Et ça va créer des tensions extrêmes entre les deux générations.
Histoire d'un commencement, avant de plonger plus avant dans votre roman, Kauter Adimi, le nouvel album du groupe réunionnais Graines Sémées, ou plutôt le premier titre de leur nouvelle EP intitulé Poussière, avec la contribution de Gaël Faye.
J'habite actuellement dans une maison de retraite. C'est difficile de finir ainsi quand on a vu autant du monde. Est-ce que j'ai souri? Je sais que j'ai dansé devant vous. Je vendais des arbres en fer dans la rue des commerces. Je suis une éphémère que vos regards renversent. Les rues de Pretoria sont vides. Le vent s'étale dans les townships. Les allées de Djobourg ou celles de Pretoria ont un point commun. Un point de couleur.
Un point de couleur.
Partout, cette même poussière dans l'air. Même poussière dans l'air. Cette même poussière dans l'air.
Dans les cheveux des grandes villes, aux tables d'étranges endroits, dans les vents chauds qui coiffent les incendies, dans les livres qui contiennent les forêts d'autrefois, partout, cette même poussière dans l'air. Cette même poussière dans l'air.
Je n'ai pas envie de digérer des agonies. Les autoroutes s'étendent en avant, brûlent de leur peau de serpent. Le sifflement de l'air sur la fenêtre nous envoûte. Nous avons croisé les agriculteurs d'hier, ils faisaient un grand écart avec leurs yeux. Nous avons écouté l'autre, celui qui parlait. Ses mains étaient un livre ouvert. Partout, cette même poussière dans l'air.
Gaël Faye et Graines Sémées sur RFI avec cette EP attendue en novembre, une avant-première dans De Vive Voix à l'occasion de la présence de Kauter Adimi pour son nouveau roman Les Petits de décembre, roman qui commence en février, donc vraiment on fait tout le calendrier. Ça commence très précisément un 3 février 2016 et il pleut sur Alger. C'est important, la pluie.
Non mais c'est quelque chose qui revient dans beaucoup de mes romans. Alger est souvent sous la pluie. J'essaye de sortir du cliché de la ville ensoleillée avec ses palmiers. Et j'ai toujours beaucoup aimé ma ville sous la pluie. Ce qui arrive souvent, hein, cette période de l'année, ce qui arrive souvent. Voilà. D'ailleurs, il y a quelques semaines, il y avait de grosses inondations à Alger. Et c'est ce que raconte un peu le début du roman, la peur d'être inondée. la peur que la pluie nous emporte. Et j'ai été extrêmement marquée par les inondations de Babeloued en 2001. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me reste toujours à l'esprit dès lors que je dois parler d'Alger. J'en raconte toujours, j'en reviens toujours à ça, cette ville sous la pluie, comment elle se transforme entièrement dès lors que quelques gouttes de pluie commencent à tomber.
Et c'est une pluie qui peut être ravageuse, mais elle est l'œuvre de Dieu, donc on ne critique pas.
Oui, on ne critique pas, mais on est quand même très embêté et on râle un peu quand même.
Alors, trois adolescents, leurs parents tous militaires, une vieille femme qui s'est battue contre les Français. Voilà les principaux héros de votre roman, Kawter Hadimi. C'est une miniature de la société algérienne, en fait.
D'une certaine société algérienne, hein, puisqu'on est quand même dans un coin d'Alger, dans un quartier occupé uniquement par des militaires. Donc c'était un parti pris, hein, mais c'est une certaine société algérienne. Alors oui, effectivement, ce que permet quand même cette révolte des enfants, c'est de réunir tous les Algériens, puisque en occupant le terrain, ils vont finir par réussir à convaincre plein d'Algériens de tous les quartiers de les rejoindre. Et en ça, eux vont réussir à créer des ponts là où normalement il ne devrait pas y en avoir, puisque c'est une cité de militaires.
Et puis, cela permet de réunir aussi toutes les générations, oui, avec cette vieille femme qui a lutté contre les Français et qui a fait la guerre.
Oui, qui, elle, dès le début, va aider les enfants. Mais comme les enfants, la vieille dame et les enfants, c'est un peu, pour moi, c'était un peu des personnages un peu intouchables. Les généraux ne pouvaient rien, dans mon roman, les généraux ne pouvaient rien contre eux, puisqu'à l'époque, je pensais qu'on n'enfermait pas des personnes extrêmement âgées, qu'on n'enfermait pas des personnes très jeunes. Ces derniers mois, malheureusement, nous ont prouvé le contraire, hein, puisque on a arrêté un ancien moudjahid qui est très âgé, qu'on vient d'arrêter des jeunes en Algérie qui sont en prison depuis quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. Voilà, donc, je crois que j'étais un peu plus optimiste que la réalité, malheureusement.
C'est une société où la surveillance est généralisée, on agit dans l'ombre, vous racontez l'importance des coups de fil.
Je ne sais pas si la science est généralisée, je dirais que la paranoïa est généralisée, je ne sais pas, à vrai dire. Les Tunisiens avaient l'habitude de dire avant, à l'époque de Ben Ali, que la moitié, 50% des Tunisiens suivaient les autres 50% de Tunisiens, que derrière chaque Tunisien, il y avait un Tunisien qui le suivait et l'écoutait. Je ne sais pas vraiment si c'est vrai tout ça, moi j'ai grandi avec des militaires, mon père est militaire, j'ai grandi dans cet univers-là, je ne sais pas ce qui est vrai de ce qui est un peu paranoïaque, mais effectivement, dans le roman, c'est ce qui donne, les gens ont l'impression d'être suivis, d'être mis sur écoute, et donc tout le monde fait très attention lorsqu'ils doivent parler, ils sortent pour discuter.
Alors vous parlez quand même de l'Algérie comme d'un pays à mi-chemin entre un pays mafieux et une dictature ridicule.
Un pays mafieux, oui, je pense que oui, sous l'époque
c'est
de Bouteflika, c'est une mafia. Mais ce qui est vrai, hein, à l'époque de Bouteflika, c'était une mafia, vraiment, hein, c'était une vraie mafia. Je ne sais plus quel journaliste avait raconté cette blague de la mafia italienne qui s'agace qu'on parle toujours de la mafia des généraux algériens et qui envoie un émissaire italien en Algérie pour se renseigner sur cette fameuse mafia qui lui fait de l'ombre. Et l'émissaire, au bout de 3 semaines, revient et dit... Mais non, vous vous rendez pas compte, eux ils ont tout, ils ont un président, ils ont un drapeau, ils ont une nation entière, tout est mafieux. Et c'est vrai que c'était en tout cas une organisation de mafia. Et la dictature ridicule, parce qu'on est arrivé à quelque chose de ridicule, on est arrivé vraiment à nous mettre le cadre d'un président pour incarner un président. Et en début d'année, on a atteint quelque chose d'assez hallucinant, puisqu'il peut être d'usage d'offrir un cadre au président de la République, et là on a offert un cadre au cadre du président de la République, et je pense que là vraiment ça atteignait quelque chose de complètement impossible à accepter.
Alors c'est un roman assez dur sur la réalité algérienne, et pour autant c'est pas vraiment un roman à charge. Les généraux pourrait presque être sympathique.
Quelqu'un
dans votre
m'a dit
roman.
Que c'était attachant.
Mais oui, parce que ils n'ont presque pas de mauvaises intentions. C'est l'évidence. Il y a un terrain, ils vont construire leur maison.
Mais c'est le problème, c'est l'évidence.
C'est l'évidence. Et il y a, à la fin du chapitre 5, une phrase qui, à mon avis, raconte beaucoup de ce régime-là. C'est une phrase très, très simple. Ça se termine par c'était parfait. Ainsi, ils se sentiraient en sécurité, chacun protégerait et veillerait sur l'autre et sa famille, c'était parfait.
Oui, pour eux c'était parfait. Il y a un terrain, on est au milieu de militaires, donc de gens comme nous, donc on ne va pas avoir peur. On est entre gens bien, on se connaît. On va construire 2 villas côte à côte, donc 2 généraux, on va se protéger. C'était parfait. Ils s'en fichaient de savoir qu'il y avait un terrain de foot, qu'il y avait des enfants qui jouaient, ça ne les intéressait pas. Effectivement, ils sont presque attachants, mais parce qu'eux aussi, ils n'ont pas vu que le monde avait changé, et c'est l'effondrement de leur monde, en fait, ce roman. Et c'est ça qui va, en fait, les rendre complètement fous, parce que ils ont peur, si le monde s'effondre, le monde comme ils le connaissent, ils l'adorent, ils n'ont pas envie qu'il change. Ce pays où les gens ne vont pas bien, ce pays où les hôpitaux ne permettent plus de soigner les gens, ce pays où on met des milliards pour construire la plus grande mosquée, ce pays-là, il leur convient parfaitement. Eux vivent bien, leurs enfants vivent bien, leurs petits-enfants vivent bien, ils n'ont pas envie que ça change. Et donc, ce changement-là, qui n'ont en plus pas vu venir, parce qu'ils ont des dossiers sur tout le monde, ils suivent tout le monde, etc., mais ils n'ont jamais pensé à suivre des enfants, ils n'ont jamais pensé à écouter des enfants. Et quand ils se retrouvent face à cette révolte et qu'ils ne peuvent rien faire, et c'est ce qu'on leur dit, leur ami, le directeur de la sécurité, leur dit « Je ne peux rien faire contre des enfants, il n'y a rien qui marche, toutes vos méthodes habituelles ne fonctionnent pas. » Et là, c'est ça, c'est un monde qui s'effondre, et du coup, ils sont perdus. Effectivement, ils en deviennent presque attachants, parce que, comme vous le dites, au début, eux disent, nous, on a un titre de propriété. Mais on sait bien que les titres de propriété, pour des généraux, c'est facile à avoir. On sait bien que des terrains, c'est facile à avoir. On sait bien qu'ils prennent ce qu'ils veulent. Et c'est un peu ce que disent les jeunes, c'est qu'ils ont déjà tout pris. Laissez-nous ce terrain vague qui n'est rien du tout pour vous et qui est juste un terrain de football. Et ça, ils ne vont pas le comprendre, parce qu'ils ne feront pas marche arrière et que les enfants, eux, ne résisteront aussi jusqu'au bout.
Les enfants se rebellent dans votre roman en février. Et à Alger, en 2019, ce sont les adultes ou les adolescents qui sont descendus dans la rue en février aussi.
Ligas ! Ligas ! Ligas !
On veut pour une première fois de notre vie. Rana l'hakna, raïs ahnan khayro. On ne veut plus des innocents.
Il n'écoute pas la voix du peuple. Donc il maintient les élections, il maintient tout ce qu'on ne veut pas, tout ce que la rue refuse.
Il n'y a jamais eu d'élection libre, transparente et sincère. Toutes les élections ont été truquées. Les Algériens n'ont plus confiance dans ce système.
La rue algérienne qui, tous les vendredis depuis février ou presque, manifeste pour la démocratie, Kawter Hadimi, est-ce que l'écriture de ce roman, Les Petits de décembre, est concomitante avec ce mouvement ?
Non, alors c'est vrai que c'est une question qu'on me pose beaucoup. Non, vous savez, le temps de l'édition est très long et les maisons d'édition veulent savoir en janvier est-ce qu'elles vont sortir en septembre.
Veut dire qu'en janvier dernier, Bouteflika était aux affaires et le roman était bouclé.
Non, le roman était quasi terminé début février et ensuite il était imprimé en mars-avril de mémoire et donc j'ai eu un mois de correction. Et c'est vrai que au moment où je terminais vraiment la correction du roman, c'était les toutes premières marches et c'est assez étrange ce roman qui se terminait et ces marches qui commençaient. Et c'est vrai que ça m'avait pas beaucoup perturbé.
Ah oui, parce que c'est totalement prémonitoire quand même.
Mais en fait, le roman se passe en février parce que en février 2016, c'est le moment où les généraux ont annoncé qu'ils prenaient ce terrain et que j'ai voulu conserver un début de roman qui était vrai. J'ai voulu conserver une vraie date, j'ai voulu conserver un vrai lieu. Donc en fait, moi j'avais choisi février pour ça. Et après, la chose que je dirais, c'est que en février 2016, moi ce qui m'avait aussi beaucoup perturbée, c'était qu'il y a eu cette révolte d'enfants et de petits-enfants de militaires à l'égard de généraux. Et je m'étais dit, ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on est en train de finir un cycle en Algérie. Parce que si des enfants de militaires, donc des enfants qui quand même ont grandi avec la connaissance de ce qu'est un grade, de ce que c'est le respect du gradé, de ce que c'est que des généraux. Si dans un pays où pendant des années on nous a fait peur avec les généraux, les militaires, etc. Si dans ce pays-là, des enfants ou des adolescents se battent contre des généraux, se battent contre des militaires, c'est que quelque chose a réellement changé de manière assez profonde. Et c'est ce que j'ai eu envie de raconter dans ce roman, ce que j'ai imaginé. Je me suis dit, mais vraiment, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça s'est passé un peu partout dans le pays. Il y a eu beaucoup de petites histoires comme ça. Quand un musicien a été arrêté, Didouche Molad, en 2016 de mémoire, et que le lendemain, des musiciens professionnels ou amateurs sortent dans la rue pour protester et qu'on libère ce jeune homme dans la foulée, c'est aussi une manière de se réapproprier la rue. Ça veut aussi dire que les gens n'ont plus peur, qu'ils osent manifester, qu'ils osent sortir. Et tous ces petits événements par-ci, par-là, un peu partout, les marches dans le sud contre le gaz de schiste, tout ça m'a fait penser qu'il se passait quelque chose en Algérie de différent, qu'on finissait un cycle. Et j'écrivais ce roman de manière assez étonnante, quasiment 10 ans après l'écriture de mon premier roman, où pareil, j'avais un sentiment qu'on finissait quelque chose. C'était la fin de la guerre civile, on était en train de créer quelque chose. Et alors, si vraiment c'était prémonitoire, ce n'était prémonitoire que parce que j'avais l'impression que vraiment tout avait changé en Algérie, où tout était en train de changer. Et ça, on était quand même assez nombreux à le voir. Et je dirais que ceux qui ne l'ont pas vu, ceux qui étaient dans des sphères tellement élevées qu'ils ne voyaient plus rien. En fait.
À propos des enfants, vous parlez de révolte. Ce qui se passe en Algérie aujourd'hui, c'est quoi ? C'est une révolution.
Oui, c'est une révolution. C'est une révolution à tous les niveaux, culturel, politique. Tout change, tout est en train de changer, c'est extraordinaire ce qui se passe. Mais même, ça a créé une cohésion entre les gens qui est extraordinaire. Et ils ont essayé de casser ça, en essayant d'interdire les symboles berbères. Résultat, tout le monde les sort et tout le monde se sent plus berbère que jamais. Ils ont essayé de casser ça en disant qu'on allait, comme si c'était vraiment le sujet le plus important en ce moment, on allait mettre l'anglais à l'université plutôt que le français, en essayant de créer une rupture. Résultat, ça a été des milliers de blagues sur le sujet. Non, il y a quelque chose de profond qui est en train de transformer la société. Maintenant, il y a plein d'écueils à éviter, il y a plein de risques, et ça, les gens en ont vraiment conscience. Mais je suis extrêmement optimiste pour les Algériens.
Alors, vous ne vivez plus en Algérie, Kaouter Hadimi, depuis quelques années. Pourtant, vous écrivez toujours sur l'Algérie. Vous dites que c'est un pays où les mots n'ont pas été posés.
Ça, c'est pour moi, les mots n'ont pas été posés parce que j'ai grandi, je pense que c'est vraiment lié à ça, j'ai grandi en Algérie, je suis née en Algérie, mais j'ai un peu vécu à l'étranger, je suis revenue en 94 et de 94 jusqu'aux années 2000, il n'y avait pas de mots pour ce qui se passait, c'est-à-dire que partout des bombes, partout des attentats, mais aucune explication. Je pense que pour les adultes, rien n'était clair et on ne pouvait rien expliquer. En tout cas, pour nous, enfants puis adolescents, on avait énormément de mal à comprendre ce qui se passait, ce qu'était notre quotidien. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup frappé après les attentats de Charlie et les attentats du Bataclan en France. Cette manière qu'on avait d'essayer de mettre des mots, d'essayer d'expliquer aux enfants, d'essayer d'expliquer à tout le monde. Et c'est là où je me suis vraiment rendu compte que pour nous, ce n'avait pas été le cas. On avait vraiment vécu dans quelque chose d'assez silencieux, d'opaque, et en plus à la fin de la guerre, avec la loi d'amnésie, on a gracié les mots n'ont pas été non plus dits, on n'a pas écouté tant que ça les victimes.
La loi d'amnésie ou d'amnistie ?
D'amnistie,
j'ai dit d'amnésie.
Bon, écoutez, c'est un lapsus révélateur. Voilà, et je pense que pour ma part, j'ai envie de remettre des mots sur toutes ces histoires-là qui, pour moi en tout cas, n'ont pas existé.
C'est le cas de ce roman encore, ce quatrième roman Kaouter Hadimi, parce qu'à partir de ce fait divers autour d'un terrain de foot, autour de trois enfants et de quelques généraux, vous racontez toute l'histoire de l'Algérie,
une partie
de l'indépendance, la décolonisation, les élections de 92, la vague islamiste, les années de plomb, de l'importance des mots et de la liberté. J'aimerais que vous lisiez un court extrait de votre livre.
Lorsque le terrorisme faisait rage, Mohamed, qui devait tous les jours se battre contre les groupes terroristes, arrêta la prière pendant 10 ans, le temps de cette guerre. Il n'en parla à personne, n'expliqua rien à sa femme. Prier lui était devenu tout simplement impossible. Il y avait trop d'horreur autour de lui. Il ne supportait plus de devoir appeler des parents ou des jeunes femmes pour leur apprendre que leur fils ou époux était mort au combat, abattu à bout portant, déchiqueté par une bombe ou torturé par une lame. Il ne supportait plus d'entendre le mot « Dieu » dans la bouche des terroristes. Il ne supportait plus de dire le même mot sur son tapis de prière. Les mots. Il se mélangeait dans sa tête. Quelqu'un peut-il salir un mot ? Peut-il se l'approprier tant et si bien qu'il finit par vous l'arracher, vous le voler en quelque sorte ? Se battre contre les terroristes, monter au maquis, débusquer les camps, c'était un peu une manière de se réapproprier tous les mots que les intégristes avaient confisqués aux Algériens.
De votre roman Kaouter Hadimi, Les Petits de Décembre. Alors Mohamed n'est pas un personnage central du roman, mais dans cet extrait on entend quand même à la fois la profondeur historique du propos, du projet, qui ne se limite pas donc à la surface du terrain de jeu, de foot, et puis aussi le style. Vous avez une façon d'écrire assez dépouillée, très précise. Qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce que vous voulez éviter ? Aucun sentimentalisme.
Dans ce roman, non. Mais parce que dans ce roman, l'action prend le pas assez souvent sur un quelconque sentimentalisme. Il y en a un petit peu par moment, notamment avec le journal d'Adila, qui elle, est dans une forme de réflexion sur le passé, sur son histoire, sur les zones d'ombre de la grande histoire, etc. Mais ensuite, c'est vrai que j'ai eu envie, dans ce roman-là, de donner vraiment toute liberté à chaque personnage d'exister dans ses mouvements et dans son action, parce que c'est ça qui est beau avec les enfants, c'est lorsqu'ils gesticulent, lorsqu'ils courent partout, lorsqu'ils jettent des pierres sur les généraux, lorsqu'ils insultent les généraux, l'homme politique, lui-même, tous ceux qui essayent de venir les raisonner. Et c'est effectivement ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire que la langue et le style, pour moi, doivent être au service de l'histoire et inversement. Donc, effectivement, ce roman se voulait avec un style plus dépouillé, un peu plus direct, avec un narrateur omniscient, omniprésent, un narrateur, des histoires qui parfois se répètent pour avoir plusieurs points de vue. C'est le cas de la bagarre sur le terrain de foot. Elle est racontée trois fois. Elle est racontée par les généraux. Elle est racontée par les adultes. Elle est racontée par les jeunes. Et chacun va raconter sa propre histoire, sa propre version de l'événement. Et puis, moi, j'avais envie aussi de poser par moments, par petites touches, comme on vient de l'entendre, un peu d'histoire contemporaine de l'Algérie, parce qu'elle est importante à comprendre, pour comprendre aussi comment on en arrive à cette révolte, parce que je trouve que par moments elle est aussi romanesque. Les présidents algériens ont tous une fin tragique, hein. Ils sont destitués, ils sont empoisonnés, ils sont obligés à démissionner, ils sont abattus par leur garde du corps. Bouteflika termine de manière misérable. Il n'y en a pas un qui a fini son mandat et point. En fait, ça n'existe pas sur des décennies d'histoire, pas un seul, en fait. Et je trouve que ça donne aussi des clés pour comprendre aussi ce pays-là et pourquoi aujourd'hui on en est là.
Mais c'est votre projet d'écrivain, Kaouder Hadimi, que de redonner des mots aux Algériens?
C'est complètement mon projet d'écrivain depuis toujours. Moi, je redonnais des mots, prendre des photos. Mon premier roman, je l'ai écrit comme ça. C'était une photo. C'était ma dernière année à Alger. Et je me suis dit, j'ai peur de partir et d'oublier ce que je suis en train de vivre actuellement. Et j'ai eu envie de prendre des photos de ce pays. Et c'est incroyable, mais c'est tout à fait vrai. À chaque fois que j'y retourne, j'ai une idée de roman. J'ai une idée de trois romans, de deux romans. Et à chaque fois, c'est la même chose. C'est des photos, c'est des mots. Et c'est ce que j'ai envie de construire à terme. Donc effectivement, on me dit souvent, mais vous n'écrivez que sur l'Algérie. Mais enfin, il y a plein d'auteurs qui n'écrivent que sur un pays. Je trouve ça toujours assez étrange qu'on me dise ça. On ne demande jamais à un auteur français, par exemple, pourquoi il écrit sur la France. On ne se pose pas la question. Moi, je dirais simplement que c'est le pays où j'ai quasiment toujours vécu. Et que le fait d'être étrangère, je ne suis pas française, le fait d'être étrangère en France, c'est-à-dire ne pas avoir la nationalité française, ça me donne aussi un peu l'impression de vivre parfois un petit peu à côté du pays, et peut-être que du coup je ne le ressens pas de la même manière que je ressens ce qui se passe en Algérie et ce pays-là.
Redonner des mots aux Algériens, pourtant votre écriture est très française, j'ai envie de dire.
Pourquoi ?
On entend très peu le parler algérien, on entend très peu la voix de l'Algérie.
Alors, la voix de l'Algérie, vous êtes dur. Le parler algérien, mais moi, je n'aime pas beaucoup quand on met des mots en arabe comme ça. Je n'ai jamais compris, par exemple, quand les journalistes disent Allah, ou bled. Enfin, voilà. Allah, ça veut dire Dieu. Alors, soit vous êtes capable de faire toute la phrase en arabe, et c'est très bien, faites-la en arabe. Soit vous êtes capable de la faire en français, faites-la en français. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on nous va donner une connotation, en fait, à ce mot, comme si ça voulait dire autre chose. Allah ne signifie que Dieu. Quand on dit Dieu et Allah, c'est absurde. Ça veut juste dire Dieu et Dieu. Et pareil, quand on dit le bled, avec une connotation extrêmement négative, le bled, c'est el biled en arabe, ça veut dire le pays, et je ne me vois pas écouter. Voilà, la seule fois où j'ai écrit différemment, c'est quand j'ai écrit une pièce de théâtre, et là, c'est de l'oralité, et je l'avais écrite en français, et tout sonnait faux, et je l'ai réécrite, parce que ça ne pouvait pas fonctionner en français. Voilà, maintenant, moi, j'ai choisi d'écrire en français, j'écris en français, et c'est aussi ça, la littérature algérienne, c'est aussi d'être capable d'écrire plein de manières différentes.
Devenir écrivain a été une décision pour vous?
Alors, j'ai grandi à une époque où on m'a pas dit qu'écrivain c'était possible. Donc, je suis devenue écrivain un peu de manière silencieuse et secrète, sans jamais dire je compte devenir écrivain ou je serai écrivain. Je suis devenue écrivain parce que je n'aimais que ça, écrire et lire, voilà, et ça s'est totalement imposé à moi.
Merci Kawtar Hadimi. Merci. Les Petits de décembre vient de sortir aux éditions du Seuil et en parallèle, l'un de vos précédents romans, Des pierres dans ma poche, sort en format poche, justement, chez Point. De vive voix, Pascal Paradou à la présentation, programmation Véronique Durand, Guillaume Ploquin à la réalisation. À très vite.